Incendie cette nuit au Caledonian Wake Park à Wano. Le grand faré qui abritait la salle de restaurant ainsi que la cuisine a été détruit par les flammes. Du nouveau, du côté de l'OPT, après un travail commun avec le gouvernement, l'Office annonce une baisse des tarifs Internet à partir de décembre. L'ouverture ce matin du congrès du Pays Kanak. Demain, il désignera le nouveau président de l'institution pour la mandature 2025-2026. En métropole, François Bayrou veut croire possible son maintien à Matignon, même s'il sait que ses chances sont faibles. Le Premier ministre multiplie les explications et les déplacements. Et puis dans la page sport, le tirage au sort en football de la première phase de Ligue des Champions. Le PSG, l'OM et l'AS Monaco connaissent leurs premiers adversaires. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal qui sera suivi comme tous les vendredis par le magazine Transparence. Bonjour Elisabeth Noir.
Bonjour Jean-François.
Un magazine Transparence dont l'invité sera aujourd'hui Virginie Rufnac.
Oui, Virginie Rufnac, première vice-présidente du Congrès, chef du groupe Rassemblement au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Nous reviendrons avec elle sur le bilan David de Manuel Valls, sur les réunions du comité de rédaction et sur le calendrier de mise en œuvre de l'accord de Bougival dont elle est signataire. Nous évoquerons évidemment, bien sûr, l'attitude du nouveau FLNKS. On se retrouve d'ici une demi-heure en compagnie de Virginie Rufnac.
Et on vous retrouvera à 16h45, évidemment, pour le club politique Radio Rythme Bleu.
Sans surprise, au sommaire de ce club, le bilan de la visite de Manuel Valls, avec le point notamment sur le comité de rédaction et sur ses relations avec le FLNKS. Nous évoquerons également la situation politique nationale pour nous interroger sur les différents scénarios possibles et sur les conséquences que cela peut avoir pour le calendrier calédonien. Et puis nous reviendrons aussi sur la fin de la polémique concernant le permis de conduire. Un club politique qui, vous le disiez, débute à 16h45.
À la fois, une partie du snack du Caledonian Wake Park situé à Wano a donc été incendiée. Les sapeurs-pompiers du SIVM Sud ont été appelés sur place vers 2h cette nuit. Le grand faré qui abritait la salle de restaurant ainsi que la cuisine a été détruit par les flammes. Écoutez Maël Carlaguer, c'est le chef de corps des sapeurs-pompiers du SIVM Sud.
Il y avait déjà un embrasement généralisé du bâtiment de la salle du restaurant et qui commençait à toucher la cuisine du restaurant dans lequel le feu s'est propagé rapidement à l'issue. Donc nous avons eu pour action de protéger tout ce qu'on pouvait autour de ce bâtiment et environ 600 mètres carrés de brûlés. Toute la partie restauration du site a été embrasée, donc tout ce qui est cuisine, salle de restauration, tout ça ont été brûlés, ainsi qu'un conteneur avec d'autres matériels à l'intérieur. Le site en lui-même n'est pas entièrement embrasé, mais de ce que je comprends, c'était une des sources de revenus principales de l'exploitant. Il va falloir que l'exploitant procède au nettoyage du site et voit comment il peut relancer son exploitation ou pas, quoi.
Les propriétaires de la structure vivent à 50 mètres du faré. Ils ont été réveillés par le bruit. Et c'est la stupéfaction pour le gérant Patrick Gardet qui, dit-il, ne veut pas se laisser abattre.
Stupéfait, quoi. Ben, complètement étonné, abasourdi, parce que nous, on habite sur site à 50 mètres du faré, et dans la nuit, voilà, on s'est réveillé à 2h du matin parce qu'il y avait une espèce de bruit complètement anormal qui venait assez fort. Et quand j'ai ouvert la porte de la maison, j'ai vu le faré, un grand faré, un restaurant, qui était en flammes, quoi. Et puis après, ben, ça a gagné derrière les réserves, le côté. Et puis après, les pompiers sont arrivés à partir de 3h. Moi, j'ai essayé d'éteindre avec mon RIA, là, les installations à incendie, là, à proximité. Ben, j'ai déplié mon tuyau, puis j'ai essayé de sauver les meubles, quoi. Mais finalement, une fois que ça avait attaqué la cuisine et puis la réserve, c'est parti en gros basier. Et du coup, là, il y a toute l'installation, grand faré, bar, cuisine, réserve. J'avais même un petit conteneur derrière où je comptais faire un laboratoire. Et ben du coup, ça a brûlé aussi, le dernier, quoi. J'ai pas d'explication. On va fermer pour ce week-end. On a un peu la chance d'avoir toute la partie hébergement, bungalow, camping intacte. Et on va essayer de réouvrir, le plus tôt possible, quoi.
Des propos recueillis par Kélinda Boicou. On ne connaît pas l'origine du sinistre. Une enquête a été ouverte. Un débrayage ce matin au collège de Boulary. Le personnel de l'établissement a cessé toute activité pendant 45 minutes pour protester contre la montée de l'incivilité chez les élèves. Bertrand Brial, enseignant au collège de Boulary et délégué syndical UTCFE-CGC, dénonce des problèmes d'insécurité dans le collège et ses abords qui durent déjà depuis plusieurs mois.
Point de départ de ce débrayage, c'est suite à une agression d'une collègue au sein de l'établissement, agression verbale très violente, mais également des menaces physiques. Mais en fait, ça, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, parce que ça fait déjà depuis quelques semaines, voire quelques mois, que au sein du collège ont subi de la part des élèves des jets de pierre, par exemple, dans la cour. On a certains collègues qui ont peur de traverser la cour. Dans le parking qui est à l'extérieur du collège, il y a également deux collègues qui se sont fait crever des pneus. Enfin bref, il y a vraiment une montée en puissance d'incivilité et de comportement inacceptable de la part des élèves, notamment depuis l'année dernière à cause des émeutes. Et en fait, cette année, ça continue. Donc c'est pour ça qu'on a voulu faire cette heure de débrayage pour tirer la sonnette d'alarme et dire que ça suffit, quoi.
Les enseignants et les grévistes sont soutenus par la direction de l'établissement. Plus de 60% du personnel s'est associé à ce débrayage ce matin. Les représentants syndicaux ont d'ailleurs été reçus par le vice-rectorat mardi dernier. Une réunion constructive, selon Bertrand Brial.
C'était une réunion constructive, puisque les personnes du vice-rectorat ont été bien à l'écoute et nous ont déjà fait des propositions pour nous aider. Donc, ils proposent de mettre en place un GPO, c'est-à-dire un groupement de prévention et d'observation qui réunit, par exemple, la gendarmerie, la police, la mairie. Et il y a également l'inspecteur de vie scolaire qui va venir la semaine prochaine pour aider la vie scolaire dans leur mission. Après, la troisième proposition, ça va être des modules, en fait, de prévention, c'est-à-dire que on va nous faire des propositions de modules sur lesquels nous pourrons travailler avec les élèves. Et ensuite, nous, on choisirons les modules qui nous intéressent et sur combien de jours on veut les mettre en place pour travailler avec les élèves.
Et les modules doivent être mis en place avant la fin de l'année scolaire. L'actualité politique, le dossier calédonien est aujourd'hui tributaire de la situation politique nationale. C'est la mise en garde de Manuel Valls. À peine rentré de Nouvelle-Calédonie, le ministre des Outre-mer était l'invité de la grande interview d'Europe 1 et il a appelé à un sursaut des formations politiques du gouvernement pour trouver un accord sur le budget avant le vote de confiance du gouvernement Bayrou le 8 septembre. Pour lui, cet accord est indispensable et il reconnaît que le calendrier calédonien est lui aussi tributaire de la situation politique.
Nous avons prévu de reporter les élections provinciales au mois de juin. Donc il y a une loi qui est prévue et qui doit passer à la fin du mois de septembre
au
Sénat. Et une réforme constitutionnelle après. Mais ça fait partie aussi de l'appel que je lance à la responsabilité. Parce que ce dossier calédonien est aujourd'hui tributaire, en effet, de la situation politique nationale. Et moi, je me bats pour la Nouvelle-Calédonie, mais aussi par la France. Parce que c'est l'avenir de la France dans le Pacifique qui est également concerné par le dossier de la Nouvelle-Calédonie.
Le ministre des Outre-mer indique qu'il continuera sa mission d'ici le 8 septembre avec notamment un déplacement à Mayotte lundi et mardi. Une interview de Manuel Valls au micro de Sonia Mabrouk que vous avez pu suivre hier soir sur Radio Rythme Bleu. Un nouveau groupe d'opposition s'est constitué à Dumbéa, le groupe Les Loyalistes, le Rassemblement Dumbéa. Hier soir, le premier conseil municipal s'est tenu depuis ce remaniement et les échanges ont été parfois tendus à l'hôtel de ville, Charlotte Coulson.
Nous représentons la famille non indépendantiste unie, a déclaré la nouvelle formation hier soir. Il s'agit en fait d'une déclinaison au niveau local de l'union entre les loyalistes qui réunit Génération NC de Nicolas Metzdorf, le Mouvement Populaire Calédonien de Gilles Brial, les Républicains Calédoniens de Sonia Bakès et le Rassemblement d'Alcide Ponga. Les 9 élus municipaux de cette nouvelle alliance indiquent avoir été déçus des prises de position récentes du maire, notamment au congrès de la Nouvelle-Calédonie, et surtout souhaiter une union claire des partisans pour la Calédonie dans la France. C'est Cynthia Jean, chef de file de Génération Dumbéa depuis 2020, qui assure désormais la présidence des loyalistes Rassemblement Dumbéa.
La majorité municipale de Yonan Le Courrieux s'est fracturée depuis 2 ans et nous on s'inscrit clairement dans un mouvement d'union non indépendantiste pour mener une politique claire dans la période qui est la nôtre sur les questions d'avenir institutionnel. Nous croyons que l'accord de Bougival et nos représentants en sont les négociateurs et les signataires pour la famille non indépendantiste. Nous croyons que cet accord d'avenir institutionnel est le seul garant d'une stabilité politique qui va nous mener vers le développement économique de la Calédonie et donc de Dumbéa. Dumbéa, plus que jamais, a besoin de la présence de la France, de l'accompagnement financier et technique de la France et de cette stabilité que j'évoquais tout à l'heure.
Le nouveau groupe rassemble donc 9 conseillers et intègre même le 9e adjoint au maire de la commune. Il s'agit de Pierre Mestre, en charge de l'action éducative. Il conserve son poste malgré ce changement. Forcément, le remaniement a suscité quelques échanges, parfois houleux, en début de conseil. Vaïmou Amouliava, de l'Éveil océanien, a notamment pointé l'un des membres du nouveau groupe d'opposition, Raphaël Romano. Ce dernier demande alors un droit de réponse au maire. Yoann Le Courrieux ne lui accorde pas. S'ensuit un échange verbal tendu entre Raphaël Romano et Yoann Lecourieux, qui lui demandent de sortir de la salle du Conseil, en menaçant même de faire venir la police. L'élu d'opposition quitte son siège et réintègre finalement la séance 10 minutes plus tard. Si ces échanges ont animé la séance, le remaniement de l'opposition ne perturbera pas la majorité municipale, selon le maire de Dimbéa, Yoann Lecourieux.
C'est son choix et il devra l'assumer dans ses votes. Et jusqu'à présent, il m'a dit qu'il voterait avec la majorité. C'est là où je me pose la cohésion de ce groupe, dont les votes n'ont pas été homogènes aujourd'hui. Ce n'est pas mouvementé. Il y a des élus qui aiment bien faire du show, qui se comportent de manière pas digne dans un hémicycle. Et à un moment donné, il faut les recadrer parce qu'ici, nous ne sommes pas dans un cirque. Et donc, même si certains se comportent de manière non respectueuse de l'exécutif ou de leurs collègues, il est important de leur rappeler leurs limites.
Après un début animé, le Conseil a finalement entamé son ordre du jour, à retenir essentiellement le lancement des travaux de réfection des écoles détruites l'an dernier, à savoir Louise de Gréland, Jacques Arandas et Jacques Minguet. Des travaux d'un montant de 390 millions de francs. La commune a enfin reçu les sommes nécessaires à leur reconstruction, explique Yoann Lecourieux.
L'enregistrement des recettes données par l'État sur la reconstruction des écoles Jacques Arandas, de Gréland et Jacques Minguet dans la décision de modification du budget principal. Et donc c'était quelque chose d'attendu depuis très longtemps. Donc maintenant, on a lancé les travaux et on espère récupérer les écoles à la rentrée scolaire 2026.
Autre sujet à l'ordre du jour, l'adhésion du maire à l'Association internationale des maires francophones. Une délibération qui a fait réagir le nouveau groupe Les Loyalistes, le Rassemblement, a en effet pointé du doigt le retard de cotisation de la commune à l'Association française des maires, qui regroupe les communes non indépendantistes du territoire. Ce retard de cotisation soulève des questions, selon Xavier Rossard, membre du nouveau groupe d'opposition.
Écoutez, on vient d'assister encore une fois à une dérive indépendantiste du maire Yoann Lecourieux qui refuse, alors que j'avais déposé une proposition de délibération, il refuse de verser la cotisation de l'année 2025 à l'Association française des maires, je précise, l'Association française. Et donc on peut encore une fois se poser la question, est-ce que le maire Yoann Lecourieux, est-ce qu'il considère qu'il est toujours un maire loyaliste, non indépendantiste de la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il ne souhaite en tout cas plus faire partie de cette association. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend dans le non-versement de cette cotisation qui représente des fonds importants pour la continuité de l'Association française des maires.
De son côté, le maire de la commune n'a pas indiqué vouloir quitter l'AFM, mais pointe, selon lui, des réunions qui se seraient appauvries ces derniers mois. L'association doit nous apporter un soutien technique et un accompagnement administratif. Aujourd'hui, c'est loin d'être le cas, a-t-il répondu. Sur les 10 communes adhérentes à l'Association française des maires, seules les villes de Nouméa et de Dimbéa ne sont pas à jour de leurs cotisations.
Une baisse des tarifs Internet de l'OPT, c'est ce que l'Office a annoncé ce matin. On en parle juste après la première pause de ce journal.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
SRB, le spécialiste de l'aluminium pour vos fenêtres, baies vitrées et garde-corps en verre. Vous voulez des baies vitrées de grande taille qui glissent facilement et qui durent dans le temps? Choisissez la robustesse de l'aluminium SRB pour un habitat design et sécurisé. SRB Aluminium, 25 ans d'expertise au service de votre tranquillité. Demande de devis au 28 12 50 ou à contact@srb.nc.
Monsieur Bricolage revient le 3 septembre à 9h à Dimbéa au Dimbéa Mall Green Retail. Maison, jardin, déco, outillage, tous les univers de Monsieur Bricolage dans un nouvel espace de 900 m² optimisé pour aller à l'essentiel. Bon plan d'ouverture, jeux, cadeaux, on est si heureux de vous retrouver.
Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, on va parler télécom. L'OPT et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ont en effet travaillé de concert ces derniers mois afin de mieux coller Lionel Sabot à la réalité de consommation Internet des Calédoniens.
Oui, dans un contexte économique, on le sait, très contraint à la suite des émeutes insurrectionnelles de mai 2024, Christopher Gigès, membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en charge notamment de l'économie et du numérique, avait lancé un travail avec l'Office des Postes afin de mieux coller à la réalité de consommation Internet des Calédoniens. Christopher Gigès.
Je voulais surtout donner le choix aux Calédoniens, c'est-à-dire que on avait des Calédoniens qui payaient de la ligne fixe et qui n'utilisaient pas de la ligne fixe. Donc même avant de baisser, je voulais que les gens aient le choix de d'utiliser ou non et de payer ou non. Donc c'est une première étape et une grande première étape qui a été réalisée. Donc c'est 440 millions d'efforts de la part de l'OPT. Et là, on a fait avec les contraintes à la fois techniques et financières de l'OPT. Mais en tout cas, je remercie la présidente Naya Wateu qui a porté ce projet. changer et qui fait qu'aujourd'hui, on peut améliorer le pouvoir d'achat des Calédoniens et leur offrir un abonnement Internet beaucoup plus performant.
Et aujourd'hui, la téléphonie dite classique est devenue, en termes de consommation, marginale face à la montée en puissance depuis plusieurs années déjà de la VOIP, des messageries instantanées, du téléphone portable. L'OPT s'adapte donc et modifie son modèle d'abonnement avec un double objectif à partir du 1er décembre, faire baisser la facture des Calédoniens et en parallèle augmenter le débit de l'Internet. Thomas Dedecker est le directeur général de l'OPT.
Pour le client, les économies vont aller de 350 à 1900 francs. Il y a 6 forfaits différents. En fonction du forfait, l'économie va être plus ou moins importante. Et par contre, effectivement, le gain va, on multiplie par 10, puisqu'on passe sur l'offre 1 giga, ça sera l'offre de base. Et on espère justement l'année prochaine sortir des offres à 10 gigas en fonction des besoins des Calédoniens, puisqu'on voit que l'usage d'Internet explose et que les besoins sont de plus en plus croissants.
Et cette nouvelle offre proposée par l'OPT est la première étape d'un travail qui va se poursuivre dans les mois qui viennent. Naya Wateu est la présidente du conseil d'administration de l'OPT.
Bien sûr, il y a une suite parce que derrière, c'est tout ce travail sur le restant des offres. C'est aussi ce travail qu'il va falloir opérer avec les fournisseurs d'accès Internet, parce que autant avant, on avait besoin de la ligne fixe pour pouvoir avoir Internet, et donc la mission de service public, elle s'opérait sur la ligne fixe. Aujourd'hui, les pratiques changent finalement et la technologie évolue aussi. On a surtout besoin d'avoir de l'Internet et le fixe devient une option pour pouvoir retravailler cet aspect-là, continuer d'améliorer nos offres, mais derrière, parce qu'on a aussi un modèle économique à tenir à l'échelle de l'OPT, c'est de pouvoir faire en sorte que ces investissements soient amortis et donc de pouvoir travailler à la compensation, faire en sorte que derrière, on puisse à la fois répondre aux usages, à la réalité des Calédoniens dans un contexte économique particulier, et en même temps de ne pas fragiliser un modèle qui est celui de l'OPT, qui apporte une mission de service public à l'ensemble des Calédoniens sur l'ensemble du territoire.
Et au total, avec cette nouvelle offre, ce sont 440 millions de francs par an qui seront donnés en pouvoir d'achat pour au moins 49 000 ménages calédoniens.
John Choupit, le directeur de la DAE, la Direction des Affaires Économiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, était ce matin notre invité à 7h30. En juin dernier, le gouvernement a signé un accord cadre avec les responsables des grandes enseignes qui se sont engagés à baisser à hauteur de 10% les prix de 120 articles de première nécessité et de grande consommation. Une réglementation des prix qui implique des contrôles. Écoutez John Choupit.
Depuis la mise en place, une centaine de contrôles ont été effectués. Ce qu'il en ressort, que l'accord est plutôt bien respecté. Une vingtaine d'avertissements écrits seulement qui ont été dressés. Sur ces avertissements, c'est surtout une infraction sur la publicité sur le lieu de vente, c'est-à-dire le fait de bien marquer dans les rayons les produits qui sont concernés par l'accord. On n'a pas de problème majeur sur le respect des prix convenus dans l'accord, donc soit avec des coefficients de marge maximum, soit des prix maximum.
John Choupit, le directeur de la DAE, invité du matin sur Radio Rythme Bleu. C'est une interview qui est à retrouver en podcast audio et vidéo sur rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS avec la question du jour. Ressentez-vous une baisse des prix après le dispositif mis en place par le gouvernement pour réglementer les prix des produits de première nécessité? Si vous ressentez cette baisse des prix, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. La réponse à notre question d'hier, 93% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent approuver la décision unilatérale du président du gouvernement de retirer les deux drapeaux des permis de conduire calédoniens. Ils ne sont que 7% à dire qu'ils n'approuvent pas cette décision. Le 25e congrès du pays kanak s'est ouvert ce matin au Sénat coutumier à Nouville. Il s'agit de la fin de la mandature 2020-2025 pour les sénateurs. Après la coutume d'accueil et la prière, les travaux ont été ouverts par les discours, Nicolas Legrand.
Oui, le président sortant, Éloi Goé, a pris la parole en premier, un discours très dur et politique dans lequel il a évoqué la lutte du peuple kanak depuis le rattachement à la France, la question foncière, la révolte d'Ataï, puis l'insurrection du 13 mai, pour laquelle il n'a eu de mots que pour les 11 morts kanak. Pour autant, Éloi Goé l'assure, il est venu le temps de l'apaisement et de la construction. Et le Sénat coutumier va d'ailleurs donner son avis sur le projet de Bougival à l'issue de ce congrès.
Un appel à l'apaisement, un appel à l'unité. Depuis très longtemps, le peuple kanak a opté pour une démarche non violente, quoi. Même si on a connu des conditions difficiles. Mais le temps de la violence est passé, le temps de la reconstruction dans l'apaisement est à retenir, quoi. C'est un peu le discours, enfin la méditation qu'a porté tout à l'heure le sénateur pasteur de l'institution. Nous avons eu l'occasion de le dire, l'accord Bougival, de notre lecture, de notre perception, risque d'être un frein aux trajectoires fixées par l'accord de Nouméa et les accords précédents. Mais on est ouvert à continuer à chercher une voie commune qui puisse satisfaire les uns et les autres.
Au cours de son discours, Éloi Gohé a notamment évoqué le livre blanc des quartiers populaires ou encore les réunions avec les organisations économiques, dont le MEDEF et la CCI, pour évoquer l'entrepreneuriat kanak. Ont ensuite pris la parole Claude Gambet, membre du gouvernement en charge des affaires coutumières, Sylvain Pabouti, qui a lu le message de la présidente du Congrès, Velma Falaeo, les représentants des consulats australiens et néo-zélandais, et enfin le haut-commissaire Jacques Billan. Il a rappelé que Manuel Valls, ministre des Outre-mer, avait commencé son séjour en Nouvelle-Calédonie par une rencontre avec le Sénat coutumier et qu'il avait accédé à sa demande de participer au comité de rédaction de l'accord de Bougival. Écoutez Jacques Billan.
Le ministre vous a réaffirmé que la porte de l'État vous restait éternellement ouverte. Je crois réellement, pour ma part, que cet accord est une opportunité à saisir pour tous les Calédoniens afin de permettre au pays de relever à nouveau la tête et de continuer à bâtir la grande case du destin commun. Et je vous assure que l'engagement de l'État à reconnaître et à garantir l'identité kanak restera plein et entier. Je crois sincèrement que l'accord de Bougival permettra de poursuivre ce partenariat unique entre les droits et les devoirs citoyens, d'une part, et la coutume et l'invisible, d'autre part. Monsieur le Président, messieurs les sénateurs, le temps des oppositions frontales est terminé. Il faut en revenir au tissage patient de la natte qui réunit et sur laquelle se nouent les échanges, les alliances et les promesses.
Le 25e congrès du Pays kanak va durer jusqu'à demain à Nouville. Il va notamment être question, vous l'avez entendu, de l'accord de Bougival, de la place du Sénat coutumier dans l'organisation institutionnelle et notamment de bicamérisme. Et enfin, s'agissant de la fin de la mandature 2020-2025, les sénateurs coutumiers vont être renouvelés, à l'exception des représentants de l'ère Djéhou, qui ont un autre mode de désignation. Et c'est d'ailleurs Ludovic Boula qui devrait être élu président du Sénat coutumier.
Une information pratique. Comme chaque mois, vous le savez, les prix des carburants à la pompe sont réévalués. Ainsi, à partir du 1er septembre, c'est-à-dire lundi. Le prix du litre d'essence sera en baisse de 2,40 francs. Il passera de 157,10 francs à 154,70 francs. Le prix du litre de gasoil va lui augmenter de 2,20 francs et passera de 138,70 francs à 140,90 francs. L'actualité dans la région. Les services de police et de renseignements australiens ont-ils déjoué un projet de détournement d'avion ? C'est en tout cas ce que vient de révéler une enquête qui a abouti à l'interpellation pour l'instant d'un seul homme. Un groupe terroriste aurait planifié le détournement d'un avion de ligne pour le forcer à atterrir au Moyen-Orient. La correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Un grand quotidien du groupe Murdoch a révélé ce matin que la police fédérale et la branche contre-espionnage du service de renseignement intérieur ASIO examine sérieusement la menace en question et qu'une enquête potentiellement longue et complexe est en cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire. Le gouvernement australien a été tenu informé de certains aspects de la dite enquête. Toujours selon les services de police qui la conduisent, un suspect aurait été arrêté et se trouverait toujours en détention. Cette affaire est devant les tribunaux, s'est contentée de préciser la police fédérale. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Il est 11h54, le temps d'une nouvelle pause dans ce journal avant de se retrouver pour évoquer l'actualité en métropole.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Du 29 au 31 août, rendez-vous au Dumbéa Mall pour le week-end de l'auto. Profitez d'offres spéciales sur une sélection de véhicules neufs et d'occasion parmi les plus grandes marques. Venez découvrir les nouveautés et facilitez vos démarches avec la présence de nos partenaires. Alors rendez-vous au Dumbéa Mall du 29 au 31 août. Et le week-end de l'auto, c'est aussi à la Concession Nord, à Gonnet.
Hé, hey, ça bouge à Boulary. Le marché Broussard revient au marché de Boulary du Mont d'Or. Le dimanche 31 août de 6h à midi, venez déguster et apprécier les produits de notre terroir avec notre nouveau boucher et sa nouvelle buvette. Charcuterie, fruits et légumes, produits de la mer, animation musicale avec Yellow et manège en animation pour les petits et les grands. Tout pour satisfaire vos papilles gustatives. Miam miam, et à dimanche prochain.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Infomag, l'actualité en métropole, on retrouve Jean-François Baudin.
10 jours pour convaincre, même si certains estiment que c'est la méthode Coué, le Premier ministre veut encore croire qu'il peut sauver sa place à Matignon. C'est le 8 septembre qu'il engagera la confiance de son gouvernement devant le Parlement après avoir prononcé un discours sur le budget 2026 pour lequel il confirme vouloir faire 44 milliards d'euros d'économies. François Bayrou multiplie donc les interventions sur le terrain, hier avec la CFDT et la nuit dernière pour nous à Roland-Garros où il a été invité aux rencontres des entrepreneurs de France organisées par le MEDEF. La France est au bord du gouffre, a redit le Premier ministre, et il appelle à la responsabilité face aux conséquences sociales dramatiques d'une possible crise financière et politique.
Qui paie tout cela? Ce sont les plus faibles. Tous ceux qu'on condamne parce qu'on refuse d'ouvrir les yeux. Et il y a une deuxième catégorie, ce sont les plus jeunes. Nous sommes en train d'accepter qu'ils soient réduits en esclavage en les obligeant à rembourser les emprunts décidés le cœur léger par les générations précédentes.
Et après l'intervention du Premier ministre, le MEDEF a organisé un débat sur la situation économique auquel participaient plusieurs figures politiques, y ont pris part notamment Bruno Retailleau, Gabriel Attal, Jordan Bardella ou encore Marine Tondelier. Un débat qui avait un petit goût de campagne électorale. Alexis de la Fontaine pour Europe 1.
Le rouge de la terre battue annonçait un débat sanglant entre ces hommes politiques que tout oppose. Et c'est Jordan Bardella qui a dégainé le premier. Le président du Rassemblement National lâche ses flèches contre le gouvernement.
La France a peut-être les meilleurs joueurs du monde, mais elle est entraînée par des ânes.
Rapidement, Bruno Retailleau se dédouane du bilan économique d'Emmanuel Macron.
Je veux simplement redire à Jordan Bardella qu'il faut être très concret. Moi, j'ai été dans l'opposition, je l'ai dit. Donc je ne me sens pas du tout comptable de la dette ou des déficits précédents.
Mais au fur et à mesure des échanges, plusieurs consensus émergent, notamment la nécessité d'une rupture politique en 2027, comme le décrit Gabriel Attal.
On s'efforce de faire tourner le pays avec un modèle issu de 1945. La France ne peut pas tourner en 2025 avec un modèle de 1945. Tout notre modèle institutionnel, social, économique a été construit à une époque qui n'a plus rien à voir.
Malgré ces échanges, cela reste encore très difficile d'imaginer ces personnalités politiques travailler ensemble pour éviter la crise de régime.
C'est donc le 8 septembre que l'on saura si François Bayrou reste ou non à Matignon, hypothèse à l'heure actuelle improbable si l'on en croit la détermination des oppositions parlementaires. Les yeux se tournent donc vers l'Élysée pour savoir quelle décision prendra le chef de l'État. Emmanuel Macron n'écarte pas la thèse d'une nouvelle dissolution, même s'il souhaite l'éviter. Il va donc d'abord probablement choisir de nommer un nouveau Premier ministre, sachant qu'il a jusqu'à présent écarté toute idée de démission de sa part. Emmanuel Macron, très critiqué par Sabéa Sansal, la fille de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, incarcérée depuis plus de 9 mois maintenant par le pouvoir algérien. Elle dénonce le silence d'Emmanuel Macron. La lettre qu'elle lui a adressée en avril dernier est restée sans réponse. Sabéa Sansal a décidé de se mobiliser. Elle participait la nuit dernière pour nous à une réunion à Autun, en Saône-et-Loire, organisée par le comité de soutien de l'écrivain. Le reportage d'Antoine Bienveau.
Visiblement émue, la fille de l'écrivaine a pris le temps de chercher ses mots sur scène pour témoigner de sa détresse et de son désarroi.
J'ai essayé de faire presque tout. Je me suis adressée au président Tebboune, au président Emmanuel Macron, la télévision, la radio. Et sans résultat, je n'ai jamais reçu une réponse. Alors je ne sais pas quoi faire de plus.
La voix tremblante Sabé Sansal a aussi appelé à ne pas oublier son père emprisonné depuis près de 10 mois dans les geôles algériennes. Un message relayé par Jean-Michel Blanquer, ancien ministre à l'initiative de cette soirée de soutien.
Un homme âgé, malade, est emprisonné à raison de ses idées. Ça mérite le silence qui suit, parce que derrière cette phrase et derrière cette réalité, il y a non seulement l'homme Boualem Sansal, mais il y a tous ceux qui, aujourd'hui, en Algérie et ailleurs dans le monde, sont emprisonnés à raison de leurs idées.
Des idées qui sont aujourd'hui défendues sur cette scène avec un mot d'ordre, vive la liberté d'expression. C'est d'ailleurs le slogan qui a été répété au début de ce rassemblement.
11h59, la dernière pause de ce journal avant de voir l'actualité sportive dans un petit instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Comment réduire mes impôts tout en relançant l'économie du pays? Tu le sais, toi?
Bien sûr. Fais appel à des professionnels pour réaliser des travaux sur ta maison et profite des nouvelles mesures fiscales accordées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Comment ça?
Maintenant, tous les travaux sont éligibles dès ta déclaration 2025. Intérieur ou extérieur, habitation principale ou secondaire, ancien ou récent, tous les travaux. Sauf, bien sûr, l'entretien courant, les petites réparations, la déco.
Et c'est tout?
Attends, cerise sur le gâteau. Le plafond des travaux déductibles passe à 15 millions étalés sur 3 ans dès 2025.
Ah bah ça, c'est un sacré coup de pouce.
Nouveau dispositif, travaux déductibles, réduisez vos impôts, relancez les économie.
Liste des travaux éligibles sur dsf.gouv.nc.
Ce sont les soldes chez Jardiland. Du 30 août au 28 septembre, transformez des petits prix en grands plaisirs. Alors profitez-en pour aménager et décorer votre extérieur ou encore prendre soin de vos animaux.
Jardiland. Cultivez votre bien-être.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
La suite d'Infomag avec l'actualité sportive, on retrouve Jean-François Baudin.
On va commencer par le football et le tirage au sort de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. La phase de Ligue est la première partie de la nouvelle formule de la compétition. Le PSG, l'OM et l'AS Monaco connaissent donc leurs premiers adversaires. Et de gros marceaux entendent les Parisiens. Cyril de la Morinerie pour Europe 1.
Les Parisiens vont notamment accueillir les Allemands du Bayern Munich qu'ils ont battu cet été lors du Mondial des Clubs, mais aussi se déplacer en Catalogne pour des retrouvailles avec le FC Barcelone. Au programme également, la réception des Anglais de Tottenham et des Italiens de Bergame. Cela promet de très belles rencontres, estime Laurent Fournier, ancien joueur du PSG.
Il y aura du prestige et puis surtout des très bons championnats. Le championnat d'Espagne, le championnat d'Allemagne, ça va être compliqué, mais on sait que le PSG est un peu favori de la compétition.
Pour son retour en Ligue des Champions, l'OM se rendra sur la pelouse du Real Madrid de Kylian Mbappé. Le club phocéen va également recevoir le champion d'Angleterre en titre Liverpool et le mythique club de l'Ajax Amsterdam. Les supporters de l'OM vont se régaler, confirme le directeur sportif de Marseille, Mehdi Benassia, interrogé par Canal+.
Des soirées européennes comme ça, je pense qu'à Marseille, c'est quand même spécial. Et je sais qu'on va avoir à tous les matchs un stade qui va être en feu et va falloir être à la hauteur.
Enfin, Monaco recevra Manchester City, la Juventus de Turin, et se rendra, comme l'OM, au Real Madrid. Mais surtout, les monégasques se déplaceront en Norvège à Bodø/Glimt, situé au-delà du cercle polaire.
Et toujours en football, notez que Strasbourg s'est qualifié pour le tour principal de la Ligue Conférence. En barrage, les Strasbourgeois ont éliminé les Douanois de Brøndby. Un mot de basket pour signaler que l'équipe de France a bien débuté le championnat d'Europe des Nations. Les Bleus ont battu la Belgique ce matin 92-62 à Katowice. C'est un bon départ, mais il faudra confirmer ce bon départ dès dimanche face à la Slovénie. Du cyclisme, Lionel Sabot, pour parler de la suite du Tour d'Espagne. On courait cette nuit la 6e étape de la Vuelta.
Oui, l'Australien Jevin à l'avant pendant plus de 160 km a remporté cette 6e étape en Andorre devant son compagnon d'échappée, le Norvégien Thorstein Træen, nouveau leader du classement général, le coureur de l'équipe Emirati qui faisait partie d'un groupe de 10 ayant attaqué avant même la première difficulté du jour à distancer ses concurrents dans l'avant-dernier col de cette première étape un peu sérieuse, étape de montagne pour s'imposer au sommet. Deuxième à 54 secondes, Træen, le mieux classé au classement général dans l'échappée avec le français Bruno Armirail, prend le maillot rouge de leader au Danois Jonas Vingegaard qui ne leur a gardé qu'une journée, qui a franchi lui la ligne avec le peloton et à 4,19 du vainqueur. Il est cinquième désormais au classement général. Armirail, le français, est deuxième de ce nouveau classement général à 31 secondes du leader. L'italien Lorenzo Fortunato occupant la troisième place à plus d'une minute. Le porteur du maillot rouge pendant 24 heures, le grimpeur français David Godu, a lui cédé un peu de temps sur le peloton des favoris, 28 secondes. Il a terminé 26e de l'étape. Au classement général, il est désormais 15e à 3 minutes 17 du leader, mais à 44 secondes seulement de Vingegaard.
Un mot de tennis pour terminer avec la suite du deuxième tour de l'US Open à Flushing Meadows. Ce matin, le français Hugo Royer, 186e à l'ATP, s'est incliné en 4-7 face au Canadien Chapovalov. Côté française, victoire de Diane Paris en 3-7 sur la Mexicaine Renata Zarazua.